Alors, comme à mon habitude, que je reprends cette fois-ci, je vais prendre quelques minutes pour résumer la conférence d'il y a 15 jours de Philippe Hellebois. Philippe Hellebois qui nous avait parlé sous le titre Le ressort de l'amour, première partie, des séances 1 à 5 du séminaire sur le transfert. Il nous a d'abord finalement pointer, tout comme Lacan le fait dans son séminaire, que finalement Socrate, dans le Banquet de Platon, eh bien c'était l'ancêtre des psychanalystes. On pouvait dire que c'était le premier psychanalyste, et c'est ce vers quoi il nous a menés dans l'ensemble de la conférence, notamment. Et Socrate avait pour habitude de dire qu'il ne connaissait rien, sauf que dans le banquet, il dit « je ne connais rien, je ne sais rien, sauf en matière d'amour ». Et donc Philippe nous dit qu'au fond, travailler sur le thème du transfert, c'est vraiment quelque chose de bien agréable, puisque d'une part, parler de psychanalyse, on sait que ça, et les thèmes de la psychanalyse n'intéressent pas forcément tout le monde. Par contre, parler d'amour à travers le transfert, eh bien, on peut supposer que ça concerne chacun d'entre nous. Donc cette année, on fait le défi de avoir un séminaire vraiment vivant. Alors pourquoi avoir choisi ce transfert, ce séminaire du transfert? Eh bien, c'est aussi du fait qu'on avait justement envie de travailler, comme l'a rappelé Philippe, sur ce qui se passe après une bascule dans l'enseignement de Lacan, cette bascule qui se situe plutôt au séminaire 7, donc le séminaire qui précède celui du transfert, séminaire qui s'appelle l'éthique de la psychanalyse. Bon, alors quelle est cette bascule? C'est une bascule finalement où Lacan, qui jusque-là avait mis plutôt l'accent sur les registres réels et symboliques et imaginaires, va donner finalement la primauté au registre du réel en le rendant notamment indépendant par rapport aux deux premiers registres. Alors voilà, on a décidé de démarrer par le transfert. On reviendra peut-être à l'éthique l'année prochaine, mais c'est en tout cas comme ça qu'on avait envie de commencer. Philippe nous a rappelé que tout au long de l'enseignement de Lacan, du début à la fin, finalement, ces trois registres réels, symboliques et imaginaires étaient toujours trois ordres constitutifs de la pensée de Lacan, mais que finalement, il les agençait de façon différente, les rapports entre chaque registre variaient, la façon dont les concepts étaient pris dans les registres variait aussi dans l'enseignement de Lacan, et la primauté qui était donnée plutôt à tel registre qu'à tel autre variait également selon le temps de l'enseignement. Et donc au fond ici, après ce séminaire de l'éthique, on est dans un moment où le réel devient plus important et a une certaine primauté par rapport aux deux autres registres. Alors, au fond, dans le réel, qu'est-ce que c'est? Après avoir dit que finalement, il pouvait être... J'ai envie de dire maîtrisé par d'une part l'imaginaire dans le stade du miroir de Lacan et d'autre part par le symbolique à travers tout le travail que Lacan a fait sur le signifiant. Finalement, le réel devient plus important et Lacan dit attention, le réel ne désigne pas la réalité, mais il désigne plutôt la jouissance. Et ce qui fait que le réel diffère pour chacun. Alors, se pose la question, à travers la question du transfert et du fait de parler d'amour, de savoir si, au fond, qu'est-ce qui se joue, quelles sont les différences entre l'amour et ce qu'on trouve dans le transfert, dans la cure analytique, d'une part, et d'autre part, est-ce que lorsqu'on parle du transfert, on est simplement dans le cas d'une simple répétition pour le sujet de ce qui se jouerait dans sa vie, une simple projection. Et à cela, Lacan dit non, ce serait vraiment trop simple. Lorsque le transfert surgit, c'est bien quelque chose de réel qui surgit dans la cure, quelque chose qui est inattendu et qui est de l'ordre de l'amour, avec ses exigences et ses déceptions. D'ailleurs, Lacan commence comme ça son séminaire. Au commencement était l'amour, et comme nous le fait remarquer Philippe, il ne dit pas le verbe. Alors, après avoir indiqué en quoi finalement le point de départ de la psychanalyse, ce qui s'est joué entre Anna O et Breuer, finalement n'a pas pu mener à terme cette cure, Anna O, et en reprenant au fond les différences entre ce qu'a fait Breuer, c'est-à-dire retourner auprès de son épouse, et la façon dont Freud a manié la question du transfert, eh bien, on a pu voir à travers les histoires des deux hommes que la position de Freud avait finalement permis que la psychanalyse voie le jour, puisque face au transfert, eh bien, Freud n'est pas parti en courant, j'ai envie de dire. Alors, après ça, au fond, Philippe nous a emmenés du côté eh bien, de la présentation dans le séminaire de Lacan du Banquet, et nous a d'abord fait rappeler que dans le Banquet de Platon, les deux premières parties du Banquet pouvaient être considérées comme des lieux où on voit ce qu'est l'amour, alors que dans la troisième partie, lorsque surgit Alcibiade dans cette troisième partie, on est plutôt du côté d'une métaphore de l'amour de transfert. Et l'amour est là présenté comme un dieu, et les dieux, c'est donc bien quelque chose de réel. Le réel, nous dit Philippe, il ne faut surtout pas le combler, parce qu'on ne peut pas vivre sans. L'amour nous est présenté finalement dans deux sens, du côté de l'être aimé, celui qui est aimé, et du côté de celui qui aime, l'amant. Et lorsque, au fond, Socrate doit parler d'amour, il fait intervenir une prêtresse qui parle à sa place, parce que finalement, c'est peut-être trop complexe d'en arriver aux mots. L'être aimé, nous dit-il, est beau parce qu'on l'aime, mais la vérité de l'amour n'est pas du côté de l'être qui est aimé, mais du côté de celui qui aime, donc du côté du verbe aimer à la voix active. Alors Philippe nous fait remarquer que cette question de l'amour et d'aimer a varié à travers les âges. Il nous a parlé de l'amour courtois, il nous a aussi parlé de l'amour goût au XVIIIe siècle, mais que là, pour le coup, dans le séminaire du transfert, on se trouve dans l'Antiquité grecque, et que donc lorsqu'on parle d'amour à cette époque, eh bien c'est plutôt l'amour pour un garçon, un jeune garçon. Alors, aimer, par rapport à être aimé, demande finalement un franchissement, un changement, sans lequel on ne connaîtra jamais l'amour. Et donc, du côté de l'aimant, on situera plutôt le sujet, alors que du côté de l'aimé, on situera plutôt l'objet, celui qui est objet de l'amour. Ce n'est pas donc une relation d'intersubjectivité. Vous vous rappellerez que Lacan, dans la cure, a critiqué cette notion d'intersubjectivité, et que c'est toujours une relation qui est dissymétrique. Alors, au fond, pour en arriver au terme de la conférence, finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque Alcibiade surgit dans le banquet ? Eh bien, Alcibiade va dire que, devant tout le monde et d'une façon vraiment pas retenue, que ce que Socrate désire le plus, c'est Alcibiade, mais que pourtant, rien ne s'est jamais passé entre eux. Et à cela, Socrate ne va pas répondre, ou en tout cas, il va répondre autrement. Il va dire, ce n'est pas moi que tu aimes, et celui que tu aimes, c'est un autre, et cet autre est dans l'assemblée, c'est Agathon. Et au fond, ce que tu aimes en moi, c'est cette possibilité que moi, Socrate, j'ai d'être aimé. Tu souhaiterais pouvoir être aimé comme d'autres peuvent m'aimer. Et cette possibilité d'être aimé, ce que Socrate aurait, que au fond, Alcibiade n'a pas, c'est ce que Socrate va nommer l'agalma, c'est-à-dire quelque chose en lui qui serait enviable et qui permettrait d'être aimé. Et c'est au fond Socrate renvoie à Alcibiade que c'est cela qu'il souhaiterait avoir pour pouvoir être aimé d'Agathon et pas du tout par lui, Socrate. Et dans ce petit échange, au fond, on peut voir que eh bien, Socrate a renvoyé ça à Alcibiade, il a finalement pris cette position de psychanalyste dont je parlais au début, et Alcibiade serait là plutôt en position d'analysant. Je pense qu'on s'en était à peu près tenu là. Et donc maintenant, je vais pouvoir céder la parole à Dominique Holvoet qui vient nous parler des séances 6 à 12 du séminaire. Alors Dominique, bien, chaque année, il y a des nouvelles personnes dans la salle, donc je vais te présenter quand même en deux mots. Tu travailles au Courtil, mais au Courtil, au centre de Tournai, puisque le Courtil a deux implantations. Tu es psychanalyste dans la région de Tournai également, mais, et je le dis pour les étudiants chaque année parce que ça me semble particulièrement important, lorsqu'on est étudiant et qu'on souhaite faire un stage au Courtil, eh bien la première personne qu'on rencontre, c'est Dominique Holvoet, parce que c'est lui qui est responsable notamment des stagiaires sur l'ensemble des différentes unités du Courtil. Voilà. Que dire d'autre ?
Rien.
Très bien, on en restera là. J'ai bien entendu voilà. Philippe l'autre fois. Je te cède la parole.
Merci Anne.
Je commence par casser le matériel. Donc bonjour à tous. Donc Alcibiade l'analysant, il est un analysant drôlement éméché hein, pour ceux qui ont lu le banquet. Alors, donc ce sont des conférences pas à pas, comme très judicieusement Anne a baptisé ses conférences il y a maintenant 3-4 ans. Pas à pas, et au fond, je suis content d'entendre la reprise par Anne Cauzin de la première des conférences, donc donnée par Philippe Elbois, parce qu'au fond, Philippe Elbois a traversé la moitié du séminaire, puisqu'on s'était partagé quasi la moitié du séminaire, puisque Lacan, pendant la moitié de l'année, donc commente le banquet de Platon, ce qui représente donc 11 leçons exactement. Et donc Philippe a donc déjà abordé pas mal d'aspects qui parcourent ces, non pas les 5 premières leçons, mais les 10, 11 premières leçons. Mais comme c'est pas à pas, bon, on va faire deux passages et donc je vais reprendre ça, je dirais, à nouveau frais en éclairant d'autres parties de cette première partie du séminaire que j'espère beaucoup d'entre vous ont lu ou ont essayé de lire, parce que Lacan n'est pas facile à lire. C'est pas un séminaire qui est particulièrement difficile, mais néanmoins, Lacan n'est pas aisé à lire. Et quand on le lit pour la première fois, on a quand même beaucoup de difficultés à attraper la chose du premier coup. Et donc, je vais remettre un peu la question du transfert dans un contexte général. Hein, pour le faire pas à pas, et puis on va donc entrer dans ce huitième séminaire qui a été énoncé dans les années 60, donc en 1960 et 61. C'est un séminaire qui a connu deux éditions, Philippe a peut-être évoqué ça la fois dernière, donc la pagination que je donne de temps en temps correspond à la seconde édition. Peut-être d'ailleurs les paginations sont pareilles de la première à la seconde, je ne sais plus. Donc il y a une première édition en 91 et puis une seconde en 2001 qui apporte quelques corrections par rapport à la première. Donc l'histoire du concept de transfert, comme Anne l'a rappelé, traverse évidemment de part en part toute l'histoire de la psychanalyse. Elle a également rappelé que dans sa proposition de la passe, qui date de 1964, Lacan écrit ceci, au commencement donc est le transfert. Ah non, toi tu as rappelé ce qu'il dit dans le séminaire ici, au commencement était l'amour. Mais donc dans sa proposition de la passe, il reprend cette phrase et il en fait un « au commencement de la psychanalyse est le transfert ». Là, on a déjà tout à ce moment-là. Et donc en effet, c'est la première leçon de ce séminaire-ci, le séminaire 8, que Jacques-Alain Miller, qui est l'éditeur du séminaire, a intitulé « au commencement était l'amour ». Entendez l'amour de transfert. Notons que le transfert est ce qui a de tout temps divisé la pratique analytique, divisé les psychanalystes entre eux. Depuis d'ailleurs les origines, comme tu l'as également rappelé, hein, c'est ce qui a fait la division entre Freud et Breuer au moment où celui-ci est complètement paniqué lorsqu'il mesure les effets de transfert qu'il a produits sur sa patiente Anna O. Il s'enfuit réellement. Et au fond, la conception que l'on se fait du transfert a constitué dans l'histoire de la psychanalyse des points de rupture importants entre les praticiens, spécialement la mise en avant de la notion de contre-transfert. C'est un point qui est développé par Lacan dans ce séminaire, qui sera largement repris par mes collègues, les collègues qui nous suivent dans ces conférences, puisque c'est dans la seconde partie. Mais je vais en dire quelques mots. C'est qu'au fond, donc Philippe a déjà évoqué la question de l'intersubjectivité. Le contre-transfert, on pourrait dire, c'est ce qui maintient l'intersubjectivité comme lien entre le patient et son analyste. Qui sont donc dans cette conception du transfert, à quoi répond un contre-transfert? Les deux protagonistes sont situés comme deux sujets en relation symétrique. Et l'idée du contre-transfert, c'est que l'analyste intervient, je dirais, à partir de ce qu'il peut subjectiver du discours de son patient. Il interprète à partir de l'effet qu'a sur lui le discours de celui qui l'écoute. Et de cette façon, le transfert couplé au contre-transfert se fonde sur un modèle de l'entretien qui est un modèle intersubjectif. Il y a deux sujets en jeu, celui qui parle, le patient, et celui qui accueille la parole, le thérapeute, l'analyste. Et celui-ci, donc, l'analyste accueille cette parole à partir de ce que lui évoque le discours de l'autre sujet, le patient. C'est un dispositif intersubjectif qui fonctionne sur une certaine symétrie et qui ne permet pas que se développe le transfert au sens proprement psychanalytique. C'est en tout cas la thèse que Lacan va défendre, c'est que ce type de théorie, au fond, ne permet pas, et ce type de pratique ne permet pas que se développe le transfert qui, comme on le verra et comme Philippe l'a déjà évoqué, suppose au moins trois termes. Donc répondre au transfert par le contre-transfert fonctionne sur le modèle que Lacan appelle la relation imaginaire. C'est-à-dire sur un modèle où l'on s'identifie à l'autre. Évidemment, les praticiens du contre-transfert, lorsqu'ils sont analystes, sont des sujets analysés, ce qui évite qu'ils se projettent purement et simplement dans le destin de leurs patients. Mais cette réserve ne suffit pas à tenir à l'écart les effets imaginaires que cette projection nécessite. Pour obtenir un transfert de type analytique, il faut sortir la théorie du transfert de l'intersubjectivité. Donc aborder ce concept fondamental qu'est le transfert, c'est donc un fameux chantier qui commence en 1895, donc dans les études sur l'hystérie. À ce moment-là, Freud donne au transfert l'acception qu'il conserve encore aujourd'hui dans la psychanalyse, à savoir le lien qui implique le psychanalyste dans la psychanalyse d'un sujet. C'est la définition la plus simple qu'on puisse donner du transfert. C'est le transfert, c'est le lien qui implique le psychanalyste, qui l'implique dans la psychanalyse d'un sujet. D'emblée, Freud reconnaît le caractère dérangeant du transfert en tant qu'il fait surgir dans le travail thérapeutique de l'amour qui se porte sur l'analyste. Joue un double rôle de révélateur du passé, mais dans le même mouvement aussi de résistance au récit de ce passé. C'est le transfert dans sa double valence bien connue, donc de moteur de travail analytique et frein à celui-ci. En 1905, en publiant ce fameux cas Dora, que vous retrouvez dans les 5 psychanalyses, Freud donne une définition du transfert. Vous trouvez ça aux pages 86 et 87 du volume des 5 psychanalyses. Donc il écrit ceci. On peut dire, signale-t-il, que généralement, la production de nouveaux symptômes cesse pendant la cure analytique. Mais la productivité de la névrose n'est nullement éteinte. Au fond, elle se déplace, c'est ça son idée. Elle s'exerce en créant des états psychiques particuliers, pour la plupart inconscients, auxquels on peut donner le nom de transfert. Au fond, son idée, c'est vous rentrez en cure, vous tombez dans un certain état d'énamoration à l'égard de la personne à qui vous parlez, et au fond, l'énergie libidinale qui allait dans les symptômes et vous faisait souffrir, elle ne disparaît pas, elle ne fait, dit-il, que se reporter, et c'est ça qu'on appelle le transfert. Elle se reporte sur la personne de l'analyste ou dans le travail même de l'analyse. Ça, c'est l'idée de Freud sur le transfert. Et que sont ces transferts, se demande-t-il. Ce sont de nouvelles éditions, des copies de tendances et de fantasmes qui doivent être éveillés et rendus conscients par les progrès de l'analyse. Et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne antérieurement connue par la personne du médecin, comme il s'exprime à l'époque. Autrement dit, un nombre considérable d'états psychiques antérieurs revivent, non pas comme état passé, mais comme rapport actuel avec la dite personne du médecin, comme il l'appelle dans ce texte. La question qui va alors tarauder Freud et qu'il pose en 1915 dans Remarques sur l'amour de transfert, c'est de savoir si l'amour de transfert n'est que la copie d'un ancien amour. Hein, c'est la fameuse question de la répétition. Est-ce que le transfert est pure et simple répétition ? Et il est bien obligé de convenir que c'est le propre de toute énamoration que de répéter des modèles infantiles. Au fond, tout amour ne fait que répéter des modèles antérieurs. Et donc, in fine, les modèles infantiles. Mais nous verrons que cela ne règle pas la question. Même si, je cite encore Freud, « on n'a aucun droit, dit-il, de contester à l'énamoration apparaissant dans le traitement psychanalytique le caractère d'un amour authentique. » C'est-à-dire, il maintient, malgré sa remarque sur le fait que l'amour de transfert, comme tout amour, n'est jamais que, au fond, la reprise de modèles antérieurs. Mais il insiste pour dire que l'amour de transfert est, comme tout amour, un amour authentique. Donc il a le caractère d'un amour authentique. Il prend ça très au sérieux. Disons-le comme ça. La question qui découle de ce caractère authentique de l'amour de transfert est alors de savoir ce qui permettra d'y mettre un terme, c'est-à-dire la question de la fin d'analyse qui va, comme vous le savez, tarauder Freud dès le départ, et la question reste encore aujourd'hui absolument d'actualité. Qu'est-ce qui met un terme à cet amour de transfert ? Donc le transfert mobilise trois questions. Comment s'inaugure-t-il dans un travail de parole ? Comment fonctionne-t-il dans ce travail ? N'est-il que répétition du passé ? Et comment est-il liquidé ? Et au fond, ces questions concernent d'une part la place de l'analyste, du thérapeute, de celui qui a fait ce choix de faire de l'écoute de la souffrance psychique son labeur. Et ces questions concernent également la direction de la cure, c'est-à-dire le maniement du transfert. Pour quelle finalité ? Donc j'entre avec cette introduction dans le séminaire du transfert « J'y entre en son cœur » aux pages 209 et 210, où Lacan dit ceci: « À l'origine, le transfert est découvert par Freud comme un processus, comme un processus, dit Lacan, spontané. Et comme nous sommes dans l'histoire au début de l'apparition de ce phénomène, un processus spontané, dit-il, assez inquiétant pour écarter de la première investigation analytique un des pionniers les plus éminents, Breuer. Très vite, le transfert est repéré et lié au plus essentiel de la présence du passé en tant qu'elle est découverte par l'analyse, cette présence. Je continue à lire un peu plus loin. Très vite aussi, il est admis au titre d'une tentative qui sera confirmée par l'expérience que ce phénomène est maniable par l'interprétation. Il apparaît dès lors que l'interprétation est nécessaire à la remémoration, qu'au fond, on ne se remémore rien sans que cette présence du passé ne soit soutenue par l'action transférentielle. Donc il y a transfert, remémoration, interprétation. Il y a donc un élément supplémentaire qui interagit dans ce retour du passé. Il y a quelque chose de plus que la tendance à la remémoration. Ce transfert, là je cite Lacan, ce transfert, on l'admet tout de suite, dit-il, c'est Freud, l'admet tout de suite comme maniable par l'interprétation et donc perméable à l'action de la parole. Il poursuit, cela introduit tout de suite la question qui reste encore ouverte pour nous aujourd'hui, et cette question qu'il soulève, eh bien, c'est de savoir si le transfert est une simple répétition, donc reviviscence d'état passé, ou bien s'il y a un écart entre la répétition et le transfert. Et on verra que Lacan tendra, en tout cas à ce moment-là de son enseignement, d'essayer de distinguer transfert et répétition. Donc le point important est déjà, je dirais au départ, dans la phrase de Freud que j'ai citée tout à l'heure. Un nombre considérable d'états psychiques antérieurs revivent non pas comme état passé, mais comme rapport actuel avec l'analyste. Autrement dit, que se passe-t-il dans le transfert si ce n'est pas la simple répétition des états psychiques du passé? Si on stipule, si on soutient qu'il y a un écart entre ce qui se passe dans le transfert ici et maintenant et la reviviscence d'états antérieurs, alors quel est cet écart? De quoi s'agit-il? Alors, ce que Freud va soutenir, c'est que cette répétition s'accompagne d'un rapport actuel avec la personne du médecin. Autrement dit, le transfert actualise le traumatisme, si je puis dire. Il n'est pas que répétition. Si dans le transfert se rejoue, se répète, se remémore des histoires passées, nous devons donc prendre en compte que tout cela se joue dans la parole, et plus encore, nous devons prendre en compte que ce phénomène du transfert est lui-même placé en position de soutien de l'action de la parole. C'est parce qu'il y a le transfert que quelque chose vient là permettre à l'analysant de parler un pas plus loin. Autrement dit, si quelque chose est interprétable, c'est-à-dire si l'on peut donner un sens à ce qui se dit, c'est parce qu'il y a le transfert. Celui-ci se retrouve donc d'une part en position de quelque chose qui peut être interprété, auquel on peut donner un sens nouveau, et d'autre part en position de condition à l'interprétation. Donc il est à la fois interprétable et une condition à l'interprétation. Vous voyez le paradoxe que ça pose, je vais y revenir. Parce qu'au fond, ce paradoxe fait que le transfert comporte en lui-même une sorte de limite irréductible, puisqu'il est à la fois ce qui est interprété et la condition de l'interprétation. Et donc pour opérer, si je puis dire, l'ultime interprétation, il faudrait, enfin celle qui effacerait le transfert, comment cette ultime interprétation serait possible, puisque la condition de l'interprétation, c'est le transfert. Enfin, c'est un problème logique, si je puis dire. Hein, s'il faut le transfert pour interpréter et que celui-ci est interprétable, il y a un moment où l'épure de l'interprétation ferait disparaître le transfert. À la réserve près qu'il faut du transfert pour que cette interprétation ultime opère. C'est un problème du type paradoxe de Zénon. Hein, Achille et la tortue, on parcourt toujours la moitié du chemin jusqu'à arriver au point final. Mais évidemment, à quel moment on arrivera au point final si chaque fois on parcourt la moitié du chemin? Alors, dès lors, si la présence du passé, c'est la réalité du transfert, il faut ajouter qu'il s'agit d'une présence en acte. Donc ce n'est pas pure remémoration. Donc il y a dans la manifestation du transfert quelque chose qui est créateur. Le sujet fabrique, il construit quelque chose dans le transfert. Et Lacan va jusqu'à soutenir que le transfert, c'est la construction d'une fiction. Alors on peut se demander pour qui cette fiction est élaborée. Alors on peut dire bien sûr dans le transfert pour l'analyste, c'est un peu court, disons pour l'autre, pour le grand autre, comme Lacan le spécifie. Autrement dit, c'est pour l'inconscient, parce que l'inconscient c'est fait pour être entendu. Évidemment, il y a cette dimension et que Lacan fait résonner dans le séminaire où... tout ça se déroule avec la condition que le sujet ne le sache pas, en quelque sorte. Le sujet ne le sait pas, il ne sait pas que ces histoires qu'il raconte sont là pour être entendues, pour être entendues par un autre. Lacan dit, il ne sait pas qu'il feint de parler pour être entendu. Donc ce « il ne savait pas », pour ceux qui ont un peu continué à lire le séminaire dans les leçons suivantes, enfin dans ces leçons qu'on travaille aujourd'hui, c'est la leçon au-delà de la leçon 5-6, ce « il ne savait pas » est constitutif du sujet de l'inconscient. Et Lacan y consacre d'ailleurs plusieurs pages, notamment sur le « il ne savait pas » de Socrate, Hein, c'est l'épisode que je pense déjà Philippe Elbois a évoqué, où la Candie, au fond, il fait intervenir Diotim, donc la sorcière, la prêtresse plutôt, il l'a fait intervenir, au fond, pour se mettre en position de celui qui ne sait pas. À la fois, il est celui qui sait les choses sur l'amour, et en même temps, on ne peut parler de l'amour qu'en position de non-savoir. Hein, il a une, je vais le dire avec les termes de Lacan, il a une jolie formule pour dire ça. Je pense que je l'ai reproduite ici. C'est la page 161. Socrate ne peut se poser ici dans son savoir qu'à montrer que de l'amour, il n'est de discours que du point où il ne savait pas. Hein? Donc il ne peut parler de l'amour et développer un savoir sur l'amour qu'au fond par une sorte de subterfuge où il introduit quelqu'un d'autre pour en parler à sa place parce qu'on ne peut en parler que du point où on ne sait pas. Et bon, Lacan fait une série de commentaires sur le « il ne savait pas » de « il reprend Beaux endormis » qui est un de ses poèmes fétiches puisque c'est à partir de ce poème-là qu'il a développé ses théories sur la métaphore. Ou encore, il dit Oedipe, pourquoi Freud a été chercher Oedipe, c'est pas du tout pour ce que vous pensez, ces histoires de coucherie, etc. Il a été chercher Oedipe parce qu'il y a cette dimension du « il ne savait pas » et qui est, enfin, on l'entend bien, et vous le saisissez bien, je crois, qui est au fond consubstantiel à l'inconscient, hein, cette dimension de « il ne savait pas ». En d'autres termes, souligne Lacan, il paraît impossible d'éliminer du phénomène du transfert. Donc là, je reviens à la question de la présence, de l'actualisation et de la présence de l'analyse dans le transfert. Lacan dit ceci, je le cite, « Impossible d'éliminer du phénomène du transfert le fait qu'il se manifeste dans le rapport à quelqu'un à qui l'on parle. Ce fait, dit-il, est constitutif. Il constitue une frontière et nous indique du même coup de ne pas noyer le phénomène du transfert dans la possibilité générale de répétition que constitue l'existence même de l'inconscient. » Ce qu'il dit, c'est, au fond, l'inconscient, c'est une machine à répétition, en quelque sorte. C'est une machine qui est là pour que ça se répète. Le transfert spécifie autre chose, c'est que dans le transfert, on est dans un rapport à quelqu'un à qui l'on parle. Et donc, il reprend, ce phénomène de base, ce quelqu'un à qui l'on parle. Il s'agit pour Lacan, dans ce séminaire, de spécifier ce qu'il doit être, ce quelqu'un à qui l'on parle. Que doit-il donc être ? Plus précisément, ce que doit être fondamentalement, ce qu'il appelle par exemple, page 130, le désir de l'analyste. Ça, c'est fondamental. C'est qu'au fond, une fois qu'il a distingué transfert et répétition, alors il reste toute la question de savoir si ce qui spécifie le transfert par rapport à la répétition, c'est qu'on est dans un rapport de parler à quelqu'un, eh bien, au fond, quelle spécificité, comment se configure, si je puis dire, ce quelqu'un. Et il commence par l'appeler, enfin, par nommer ce lieu, hein, parce que c'est comme ça qu'il va en parler, comme d'un lieu, le désir de l'analyste. Il y a l'atopie de l'amour, hein, si je me souviens dans les titres, hein, l'insituable de l'amour, et puis il y a le lieu de l'analyste, hein, comme ce répondant, si je puis dire. Donc il appelle ça le désir de l'analyste, cette place, et il cherche à définir cela, et tout son séminaire, c'est d'essayer de creuser ce trou-là. Il cherche à définir, je le cite en bas de la page 130, il cherche à définir les coordonnées que l'analyste doit être capable d'atteindre pour simplement occuper la place qui est la sienne. Et il définit cette place ainsi. La place de l'analyste, c'est assez joli, est celle qu'il doit offrir vacante au désir du patient pour que ce désir se réalise comme désir de l'autre. Pour que ce désir du patient se réalise comme désir de l'autre. Je relis cette phrase. La place de l'analyste est celle qu'il doit offrir vacante au désir du patient pour qu'il se réalise comme désir de l'autre. Pour que ce désir, je traduis, se réalise comme désir de l'autre. Bon. On est, vous voyez bien, dans cette phrase-là, on est quand même loin des théories du transfert contre transfert. Hein, puisque. En même temps, donc, cette formule qui termine la phrase de. le désir du patient pour qu'il se réalise, ce désir comme désir de l'autre, est un peu énigmatique. Si on y ajoute, enfin, ce que Lacan serine à ses élèves, alors à ce moment-là, depuis des années, que, au fond, le désir de l'homme ne se spécifie jamais que du désir de l'autre. Vous connaissez l'aphorisme qui dit, enfin, l'aphorisme de Lacan qui dit, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Il n'y a pas un désir qui serait un désir d'une individualité propre et entière et intrinsèque. C'est le désir, votre désir, vous le tenez toujours de l'autre. C'est fondamental parce que tout le parcours d'une analyse, c'est exactement ça. C'est de rejoindre ce point-là, je vais essayer de le montrer aujourd'hui de différentes façons, que c'est rejoindre ce point du désir de l'autre en tant qu'il préside, si je puis dire, à votre existence. Alors, donc ça donne... font à l'analyse, à la psychanalyse, cette direction, enfin, d'une expérience où le sujet pourra entrevoir ce qu'il en est de son désir comme étant un désir de l'autre, auquel alors il ne lui resterait qu'à consentir. Enfin, là, j'évoque la dimension plutôt fin de la cure. Dans ce séminaire, ce consentement est là entre les lignes, si on lit bien. Dans ce séminaire, ce consentement se dit en termes de castration. Vous trouvez ça à la page 129. C'est une occurrence pour ceux qui travaillent les textes de Lacan que vous retrouvez plus tard, notamment dans son texte Subversion du sujet. Enfin, plus tard, c'est pas vraiment plus tard, hein, c'est à peu près la même époque. Donc, page 129, il dit ceci. Si la castration est ce qui doit être accepté au dernier terme de l'analyse, quel doit être le rôle de la cicatrice de la castration dans l'éros de l'analyste ? Alors je laisse en suspens, parce que c'est une phrase qu'on pourrait commenter, qui a une énorme puissance et portée, évidemment, sur la question de la fin d'analyse, de ce que c'est qu'un analyste et de ce qu'il en est de son éros au terme de l'opération. Ce qui est une autre façon aussi d'évoquer le point qu'il vise dans ce séminaire, à savoir de quoi est fait le désir de l'analyste. Donc on s'avance pas à pas, donc. Et donc c'est en cela qu'il s'intéresse d'abord, donc pendant les quasi 200 premières pages, qu'il s'intéresse au banquet de Platon. C'est en raison de la place privilégiée qui occupe les témoignages sur Socrate, pour autant que ce texte est censé mettre Socrate aux prises devant nous, dit-il, avec le problème de l'amour. Donc c'est en cela qu'il s'intéresse au banquet. C'est qu'on a là Socrate aux prises avec les problèmes que pose l'amour. Donc il y a une sorte de déplacement qui est opéré par le docteur Lacan avec cette référence à Platon et au banquet, à ce texte, avec lequel Lacan va éclairer de manière saisissante le sens du transfert, en le faisant porter non plus sur l'énamoration de l'analysant, mais sur le désir de celui qui écoute. Tout ce que je viens de dire là jusqu'ici, au fond, c'est ce déplacement-là. J'ai commencé par vous dire Freud, au fond, parle de cette énamoration. Breuer s'enfuit devant ce qu'il voit avoir, enfin ce qu'il perçoit avoir produit. Donc c'est toute la question, au fond, du transfert côté énamoration d'analysant. Et Lacan déplace ça sur le désir de celui qui écoute. Et il pose la question, quel est ce désir ? C'est seulement, dit-il, depuis ce lieu du désir de celui qui écoute. Et comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, parler de lieu déplace déjà la question par rapport à l'intersubjectivité. Le thérapeute n'est plus seulement un sujet pour l'autre, mais c'est un lieu où quelque chose vient se déposer. Donc, c'est seulement depuis ce lieu du désir de celui qui écoute que le transfert de celui qui vient présenter ce qu'il fait souffrir pourra être interrogé. Donc, on va voir dans le détail comment cette bascule s'opère entre le transfert de l'analysant vers l'analyste et la réponse de celui-ci, qui n'est donc pas de l'ordre d'un simple contre-transfert. Quand il y a réponse, ça n'est pas de l'ordre d'un contre-transfert. Donc le transfert, on l'a suffisamment dit, c'est donc de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour qui s'adresse à un amoureux potentiel qui à son tour vous aimerait. C'est-à-dire, c'est pas... Quelqu'un me faisait remarquer... que si vous allez voir dans le Littré, je crois, l'amant et l'amoureux ne se définissent pas exactement de la même façon. L'amant suppose la réciprocité, l'amoureux, comme vous le savez, pas nécessairement. Et c'est bien pour ça qu'on peut être malheureux en amour, puisque si on est amoureux et qu'il n'y a pas la réciprocité, qu'on ne devient pas amant, eh bien vous êtes tout mari, si je puis dire. Voilà. C'est un jeu de mots involontaire. Alors, où en suis-je ? Là, je suis, moi, tout mari dans mon texte. Voilà. J'en étais à cette fameuse formule. Hein ? Le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Hein ? Donc, pas de réciprocité. Et c'est parce qu'il n'y a pas de réciprocité qu'au fond, cet amour s'adresse à un au-delà de celui qui serait l'amoureux potentiel, que cet amour s'adresse au savoir. Et c'est avec une certaine métaphore de l'amour, c'est-à-dire un certain maniement de cette relation d'amour, qu'on va pouvoir rendre ce lieu habité par un savoir, par le savoir inconscient, celui qui fait souffrir le sujet. Bon, c'est évidemment plus tard, ce n'est pas dans ce séminaire, donc on ne va pas l'évoquer plus loin, mais plus tard, Lacan va développer au fond cette plastique plutôt en termes de sujet supposé savoir. Ce savoir inconscient, donc qui deviendra le sujet supposé savoir, déplace la simple suggestion transférentielle vers, et c'est je crois le point que vif que Lacan apporte dans cette première partie et ce qu'il tente de développer dans l'ensemble du séminaire, c'est que ce savoir inconscient, ça déplace la simple suggestion transférentielle vers un lieu, mais qui devient alors un lieu obscur. Vous avez cette formule dans, je pense que c'est dans la question préliminaire, qui est un grand texte de Lacan sur la psychose, où il dit, à propos des amours enfantines, Baudelaire de Dieu, dans les amours enfantines, il s'en passe de verte. C'est qu'en effet, à déplacer la question sur cet au-delà de la simple relation imaginaire transfert contre transfert, à la déplacer vers un lieu qui serait le lieu d'un savoir insu, eh bien là, on approche d'un lieu obscur. Ou Baudelaire de Dieu, il s'en passe de verte, c'est l'expression que j'avais été piqué dans la question préliminaire, et où au fond la figure de l'autre peut confiner aussi avec celle de la mort. Hein, quand j'entendais Anne dire que le séminaire ici cette année en parlant de l'amour serait vivant, évidemment tout le monde qui a lu les leçons a lu les passages où Lacan insiste et creuse la question de l'entre-deux-mort qu'il reprend de son séminaire sur l'éthique. Il s'en passe de verte et la question de la mort, le sexe et la mort sont là aux portes de l'enfer du transfert, si je puis dire. Je pensais, des occurrences comme ça, si vous voulez, on en a, je vais pas dire un appel, mais on en a, enfin, dans une analyse, c'est toujours ce type de surgissement qui doit se produire à un moment ou à un autre. Où vous avez des formations de l'inconscient qui arrivent avec toujours ces modalités. Je pensais à un rêve qui là est spécialement cadrant sur cette double thématique du sexe et de la mort, d'une analysante qui elle est venue parce qu'elle avait fait un rêve la première fois il y a des années. Elle avait fait un rêve et ça lui a fait commencer son analyse parce que c'était un rêve érotique et comme c'est une dame qui se tient bien dans la vie, ça l'avait beaucoup déstabilisé ce rêve érotique. Et puis l'analyse prenant en cours, tout ça s'était beaucoup calmé, etc. Quelques années plus tard, elle me dit j'ai refait ce rêve. Voilà. Et au fond, c'est trois ans plus tard, enfin c'est le temps d'un certain parcours analytique, ça, et ça dit bien, je trouve, ce déplacement, ce que c'est qu'une analyse, c'est j'ai refait ce rêve, c'est quasi le même, c'était le même appartement, c'était le même homme, c'était le même tout. Un petit détail près, c'est que dans mon rêve précédent, il y avait il y avait la dimension érotique, il y avait la dimension sexuelle qui était là, mais il y avait un petit détail, c'est qu'il y avait un voile qui volait au vent, une porte ouverte. Et voilà. Et je ne m'étais pas arrêté à ce détail. Mais ici, au fond, elle a rêvé un pas de plus, si je puis dire. Et au fond, elle a bien perçu que derrière le voile qui virevoltait, il y avait un long couloir. Est-ce qu'elle peut en dire? C'est ce long couloir. C'est un couloir aux couleurs gris-rose, dit-elle. Bon. Et puis finalement, la question, elle a pu dire à ce moment-là que ce couloir, au fond, lui évoquait quelque chose en rapport avec la mort. Hein, alors, je ne vais pas développer tout le cas, mais il y a des raisons précises pour ça. Et donc, on a d'un côté ce rêve érotique. Et quand elle est venue, elle était à la fois ébranlée, en même temps, elle riait beaucoup de ce rêve qui la refaisait, où elle redevenait jeune fille, si je puis dire, en quelque sorte. Et puis, elle venait parce qu'au fond, il y a quelque chose d'inquiétant qu'elle ne savait pas. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est au fond, il y avait ce petit détail du voile qui vole, du rideau qui vole, et au fond, qui indique un couloir qui est le couloir de la mort. Bon. J'évoque juste cela pour montrer que tout ça, c'est pas, que c'est au-delà que permet une certaine position de l'analyste et une spécification par Lacan dans ce séminaire de la question du désir de l'analyste, de qu'est-ce qu'il veut celui-là ou celle-là, hein, que ça permet au fond ce passage et ça permet, comme le dit Lacan, de rêver un pas plus loin. Donc c'est l'occasion d'évoquer, je poursuis, le passage à la page 122, où Lacan reprend ce rapport de l'entre-deux-morts qu'il avait abordé donc dans le séminaire précédent. Et au fond, je me disais, la chose est assez simple à saisir jusqu'à un certain point. À savoir qu'il y a deux types de frontières que dessine la mort et que ces deux frontières ne se rejoignent pas. D'une part, il y a la frontière qui est celle qui rompt le fil de la vie, où la vie, comme le dit Lacan très joliment, si je puis dire, où la vie s'achève et se dénoue, qui est la frontière liée à la disparition du corps, où la bouche est chair. Vous verrez pourquoi je fais cette incise, et ceux qui ont lu le séminaire le savent. Et puis, il y a une seconde frontière, celle de la seconde mort, qui est, dirais-je, la mort signifiante. Je ne pense pas qu'il le nomme ainsi dans ce séminaire. Cette seconde mort, il la définit en disant que l'homme aspire à s'y anéantir pour s'y inscrire dans les termes de l'être. Alors, c'est une très belle formule qui est un peu aussi énigmatique. L'homme aspire à se détruire en ceci même, dit-il, qu'il s'éternise. Et ceci, bien sûr, a relié à tous les commentaires de Lacan dans la suite du séminaire, notamment sur l'immortalité de Socrate. À savoir qu'au-delà de sa disparition physique, Socrate, parce qu'il a un rapport pur au signifiant, cherche à rejoindre les immortels. Et c'est là que, je dirais, presque comme un cri, enfin moi je l'ai entendu comme ça, quand on lit, on entend des choses, comme un cri dans le séminaire, il y a cette phrase de Lacan, « Qu'est-ce qu'il fallait que fût à Socrate son désir ?» Ça résonne, je trouve, cette phrase que vous trouvez à la page 128, « Qu'est-ce qu'il fallait que fût à Socrate son désir ?» qui résonne, au fond, pour qu'est-ce qu'il fallut que fût son désir pour qu'il ait un tel rapport au signifiant, aussi acharné, au point, au fond, de chercher à rejoindre les immortels, puisque vous connaissez le destin de Socrate. Il relie ce désir à l'affirmation par Socrate de son immortalité, en tant que cette affirmation est fondée sur l'idée que Socrate se fait, dit Lacan, de la science. À savoir la promotion pure et simple de la fonction du signifiant dans la conscience. Ça, c'est l'expression de Lacan. Promotion pure et simple de la fonction du signifiant dans la conscience comme valeur absolue. Voilà, ça devient un peu compliqué. Mais au fond, ça rejoint, pour le dire, alors peut-être trop simplement, mais je pense que ça permettra de me faire comprendre, ça rejoint la façon dont pour Lacan se définit un sujet. Hein, vous savez que Lacan, au fond, ne parle pas de la personne. Enfin, on peut parler de la personne, de l'individu, on peut parler de tas de choses pour savoir qui a-t-on en face de soi, qui parle dans une analyse. Au fond, il a très tôt dans son enseignement essayé de définir ce qu'était ce qu'il appelle le sujet. Alors, il y a toutes sortes de définitions, il y a toutes sortes de tentatives. Et dans ces conférences ici, les années précédentes, on a déjà repris les fameux schémas, je dirais, cardinaux de Lacan pour définir le sujet. Mais au fond, il y a une formule que tout lacanien respectable connaît, qui est que, au fond, c'est la formule où le sujet se définit à partir du signifiant, strictement à partir du signifiant. Parce que Lacan dit ceci, que c'est qu'un sujet, c'est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Alors, c'est la formule la plus réduite. Donc, je ne vais pas commencer à commenter parce que sinon on est parti pour trop loin. Mais enfin, je voulais insister sur ceci que si Lacan s'arrête au rapport de Socrate au signifiant, s'il y insiste tant, etc., c'est aussi parce qu'au fond, pour lui, le sujet, ça se définit à partir du signifiant strictement. Hein. Jusqu'au point où on a pu lui reprocher ce que lui-même appelle une exhaustion purement dialectique de l'être. C'est-à-dire donc au fond de réduire... lui, il en parle en se défendant de ce que c'est pas ça. Parce qu'évidemment, cette formule « un sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant » ne dit pas le tout, je dirais, du sujet pour Lacan. Je poursuis pour insister sur ceci, que c'est donc par son rapport au signifiant que Socrate fonde un désir à nul autre pareil. Mais au fond, il faut noter l'incise de Lacan, c'est pour ça que je parlais de la bouche tout à l'heure, la bouche qui est chère, l'incise de Lacan que vous trouvez page 126 et qui annonce alors les développements ultérieurs sur toute cette question de ce que c'est qu'un sujet, avec quoi est-on aux prises dans une analyse? Est-ce que c'est avec un sujet défini à partir des coordonnées du signifiant ou est-ce que c'est avec autre chose? Est-ce qu'il y a un au-delà? Parce qu'évidemment, tout de suite, il vous apparaît dans l'immédiat que quand on définit le sujet uniquement à partir des coordonnées du signifiant, c'est-à-dire à partir de son histoire, de sa biographie, de tout ce qui s'est dit sur lui, de tout ce qu'il peut en raconter, enfin, etc., il y a un élément qui manque, c'est le corps. C'est que là-dedans, tout n'est pas signifiant, si je puis dire. Hein, et c'est ça qui va, au fond, faire tout lancement de Lacan, c'est de rechercher cette articulation. Voilà, c'est ça, la bouche qui est chère. Donc il y a cette insiste, page 126, où il évoque donc Socrate, son rapport au signifiant, un désir à nul autre pareil, lorsqu'il note cet infatigable questionneur de Socrate. Donc ça, c'est l'homme dans son rapport au signifiant. Eh bien, cet infatigable questionneur de Socrate semble méconnaître que sa bouche est chère, C-H-I-R. Hein. Donc au fond, déjà là, il y a une incise où Lacan introduit la dimension du corps. Il dit d'accord, le rapport au signifiant, il est lui-même emporté, je pense, il a l'idée que c'est fondamental. Évidemment, le rapport que Socrate entretient avec le signifiant, et c'est un raisonneur, et c'est un questionneur. Bon. Mais au fond, avec sa foi dans les immortels, il oublie que sa bouche est chère, qu'il a un corps. Il oublie qu'il a un corps. Il note que l'immortalité, par le signifiant, ne peut ignorer que l'homme a un corps et n'en a qu'un. C'est une expression qu'il utilisera plus tard, l'homme a un corps et n'en a qu'un. Dieu calcule, mais l'homme baisse, pourrais-je ironiser, si vous me le permettez, avec Jacques Alain Miller qui écrivait, c'est Philippe Elbois qui m'a montré ça, qui m'a indiqué ça au téléphone ce week-end. Jacques Alaminaire qui écrivait dans le journal des journées, le journal qui prépare les journées de l'école Lacoste Freudienne, qui seront cette année plus qu'un événement, cinq fois sur la semaine, c'est-à-dire tous les jours de la semaine ouvrable, il y a un journal des journées qui est publié au moins un par jour, donc ça fait beaucoup de lectures. Et donc Miller écrivait dans une perspective lacanienne, écrivait-il donc dans le journal, je sais plus combien, je dirais tout à l'heure, dans une perspective lacanienne, il écrivait ceci. Alors j'ai mal noté, ça va me revenir. Dans une perspective lacanienne, ceci vérifie que l'amour, l'amitié, les affinités entre les par-lettres faussent les statistiques. Donc au fond, les statistiques, c'est ce que je disais, notamment sur le jeu des signifiants. Hein, c'est en quelque sorte, enfin, c'est les statistiques, c'est les jeux des signifiants poussés à leur épure la plus. Bon. Donc la perspective lacanienne vérifie que l'amour, l'amitié, les affinités entre les par-lettres faussent les statistiques, troublent le jeu mathématique et salopent la pure syntaxe signifiante. En somme, l'être humain se bécote pendant que Dieu calcule, et ça l'embrouille, le pauvre, dans ses calculs précisément. D'où son invention de l'amour du prochain, tentative de mettre l'amour toujours particulier au pas de l'universel, afin de pouvoir continuer tranquille ses compulsives computations. La computation, c'est du ordinateur, en quelque sorte. Hein. Bon, enfin, c'est juste une incise pour insister, si je puis dire, sur ce rapport qui, au fond, continue à interroger les Lacaniens entre ce que vous trouvez dans un texte des années 60, donc l'exhaustion purement dialectique de l'être, hein, qui est ce qu'on pourrait, au fond, on pourrait situer la définition du sujet par le signifiant comme une exhaustion purement dialectique de l'être, et à l'autre bout, la question donc de, oui, mais l'homme a un corps et n'en a qu'un, hein, et déjà dans ce séminaire de 1960, quand même Lacan s'arrête sur le fait que, d'accord, le rapport de Socrate au signifiant est fondamental, mais il oublie que, pour parler, il a besoin de sa bouche. Bien. Alors, j'ai encore... je pense qu'elle s'est arrêtée, ma montre, non ? Ah non, c'est ça, oui. Donc, je vais maintenant, pour la seconde partie de l'exposé, essayer de développer rapidement quelque chose que Philippe Elbois a déjà élaboré en partie, mais je vais le faire de manière un peu différente. Je vais reprendre trois métaphores de l'amour pour essayer, au fond, de montrer pas à pas la construction lacanienne du transfert. Au fond, commençons par la plus simple, la métaphore freudienne de l'amour. C'est qu'au fond, pour Freud, sa théorie de l'amour, il la pense en termes de pouvoir. L'amour chez Freud n'est pas décrit en termes harmoniques, complémentaires, hein, mais plutôt en termes dissymétriques, en termes de relations de maîtrise. Ce qui intéresse Freud dans l'énamoration, c'est qu'aimer, ça consiste à tomber sous la coupe de l'autre, sous son autorité en quelque sorte. Ce qui intéresse Freud, c'est que l'amant, parce qu'il est amoureux, perd, comme il le dit, tout sens critique. Il perd son libre arbitre, il se retrouve sous la dépendance de l'autre, sous la dépendance de l'objet aimé, et il se retrouve sous son pouvoir. Et Freud va jusqu'à écrire que dans l'énamoration, l'objet d'amour consume pour ainsi dire le moi. Ça, c'est... Je pense assez simple à saisir, chacun en fait l'expérience quand il tombe amoureux, que au fond, le partenaire, enfin ce qu'il dit, ce qu'il pense, comment il s'habille, et patati et patata, tout ça, ça devient l'ordre du monde, si je puis dire. Et donc la métaphore freudienne de l'amour écrit donc ceci, que dans la position ordinaire, le sujet est guidé dans la vie par ses idéaux, hein, par ses repères, les repères qu'il a, qu'il tient, de son éducation, etc., et que ses passions sont domptées en quelque sorte par ses idéaux, parce qu'il investit de libido, d'énergie passionnelle, autrement dit, ses objets de prédilection restent sous la domination des idéaux. Donc, si je veux écrire cette métaphore de l'amour, on aurait donc les idéaux du sujet dominent ce que j'appellerais, je vais appeler ça objet, enfin, j'ai noté objet d'investissement, hein, c'est-à-dire là où la libido, au fond, s'investit. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être le savoir, ça peut être les livres, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais tout ça est dominé par les idéaux du sujet qui, au fond... la métaphore de l'amour pour Freud, c'est que, au fond, ça se renverse. C'est que la fonction critique qui exerçait les idéaux du sujet est, au fond, amenée à se taire, on n'entend plus que des éloges sur l'objet aimé, et donc il n'y a plus que l'objet aimé qui passe donc au-dessus, et les idéaux se retrouvent, je dirais, à la trappe. Donc ça, c'est la métaphore freudienne de l'amour, c'est ce que Freud apporte sur l'amour, c'est l'amour vu en termes de pouvoir. La métaphore lacanienne, c'est ce que Philippe vous a développé la fois passée, je vais rappeler rapidement, c'est qu'au fond, on se retrouve avec un amant, hein, que dans le séminaire, Lacan appelle l'Erastès, et un être aimé, parce qu'il y a beaucoup de Grecs dans le séminaire, et un être aimé, Héroménos. Hein. Enfin, parlons d'amant et d'être aimé. Pour l'être aimé, lui, il a toutes les qualités, il ne manque de rien. Il domine l'amoureux transi. Il domine l'amant. Hein. Donc, dans la métaphore lacanienne de l'amour, je vais marquer être aimé. Ou simplement aimer, ça suffit. Donc, l'aimer et l'amant. L'aimer, lui, au fond, il est aimé, il a tout, il est du côté de l'avoir, il n'a rien à faire, l'autre l'aime, est à ses genoux, est à sa porte, est là, connecté en permanence, dès qu'il est sur MSN, l'autre, il est là, etc. Bon, donc, j'essaie de... d'actualiser. Mais... Bon, voilà. Donc, le miracle de l'amour, ce qui est attendu au temps suivant, c'est que ça se renverse. Hein, ce que l'amant attend de son aimé, c'est qu'à son tour, il devienne amant. Hein. Et donc, de la même façon, ça, c'est appelé à se renverser. Donc il s'agit que l'aimé, que l'amant puisse. Je vais commenter ça. Donc que l'être aimé, à son tour tombe amoureux, devient amant. Là où était l'objet aimé se révèle à son tour l'amant. Celui qui était l'objet d'amour devient à son tour aimant. Hein, c'est la merveille de l'amour, cette transformation de l'objet d'amour en amant. Et pourquoi donc ? Bien, c'est un miracle parce qu'il y a un paradoxe à ce que celui qui est en position d'objet d'amour passe dans la position d'amant. Puisque celui qui est en position d'objet d'amour est celui qui est du côté de l'avoir, c'est comme je disais tout à l'heure, le riche. Hein ? On peut d'ailleurs, pour utiliser les petites lettres lacaniennes, mettre ici à la place, au lieu de mettre aimer celui qui a, bon, on va mettre petit a, hein, parce qu'en même temps, ça équivoque avec le fameux objet a lacanien. Hein, lui, il a l'objet, et l'amant, lui, l'amoureux transi, lui, il manque. Hein, et donc, on va l'écrire hein, de S pour représenter le sujet, et comme il manque, bien, on va le barrer. Hein, c'est le sujet dans son manque à être. Hein. Et donc la métaphore de l'amour lacanienne, c'est au fond quand celui qui avait consent à devenir celui qui manque. Et c'est ça toute la. C'est pour ça qu'on appelle ça un miracle, parce que au fond il n'a rien à demander à personne. On lui apporte tout sur un plateau. Pourquoi passerait-il dans la position au fond d'être lui aussi désirant, c'est-à-dire manquant? Il a tout ce qu'il faut pour être aimable, aimé, désirable et désiré, alors que celui qui est en position d'amant est celui qui est du côté de l'être. C'est le pauvre. Il n'a rien. Il manque. Il est en attente d'eux. Hein, c'est l'amoureux transi. C'est un sujet qui manque, hein, que j'ai noté donc S barré. Il n'est pas complet. C'est donc un miracle que le riche consente à devenir à son tour pauvre, à se mettre dans cette position qui n'est plus celle d'avoir mais d'être, c'est-à-dire dans la position du pur désirant. Si nous devons écrire cela sur notre petit canevas de la métaphore, donc on a petit a sur S barré, c'est ce que j'ai marqué là. Celui qui est au-dessus domine la relation, celui qui manque est en dessous. Le miracle de la métaphore se produit lorsque les deux termes donc s'inversent. Voilà, ça c'est la métaphore lacanienne de l'amour, c'est le miracle de l'amour, hein, et qui tient essentiellement à ce que Héroménos, consente à devenir Erastès, hein, à ce que celui qui a consente au fond à se retrouver dans la position du désirant, c'est-à-dire celui qui manque. Mais au fond, ce séminaire écrit une seconde métaphore, enfin qui est donc dans mon développement la troisième, puisqu'il y a la métaphore freudienne puis la métaphore lacanienne de l'amour. Et au fond, il y a une troisième métaphore qui écrit la position analytique dans le transfert. Et je vais donc terminer avec ça. Pas à pas. Pour illustrer cette troisième métaphore, qui est donc la plus importante pour nous, enfin en tout cas en ce qui concerne le transfert, la psychanalyse, parce que sinon ça serait triste. Donc Jacques Lacan fait donc référence au banquet, comme j'ai déjà dit. Car au fond, alors, cette réforme sur Bocquet, c'est parce qu'il voit, et Anne l'a rappelé, Philippe a insisté là-dessus, au fond, il voit dans la position qu'occupe Socrate dans le banquet, une anticipation de la position de l'analyste dans le transfert. C'est pas uniquement qu'il voit une anticipation de la position de l'analyste, ça n'aurait pas de sens si on ne le saisit pas, justement, dans ce moment-là, pris dans le transfert que, qu'il y a d'Alcibiade vers lui. Et c'est ça que Lacan étudie, c'est Alcibiade qui rentre là, après qu'ils aient fait de grands et beaux discours sur l'amour, il y a Alcibiade qui arrive là-dedans, qui débarque titubant, etc. Et bon, et qui donc peut dire certaines choses qu'il n'aurait pas dit peut-être sans cet appoint des inhibiteurs. Et donc la dernière partie du banquet, qui se termine par une sorte de beuverie, réalise ce que Lacan nomme dans son séminaire la sortie de l'ultramonde. Lorsqu'il appelle l'ultramonde, eh bien, c'est les grands et beaux discours sur l'amour. C'est tout ce qui s'est dit avant, hein, sur l'amour harmonique, etc. Là, au fond, on passe au travers de l'écran. Sortie de l'ultramonde. Jusque-là, chacun a développé sa théorie de l'amour dans ce que Lacan nomme un grand mirage fascinatoire. Il n'est pas tendre avec les grandes théories sur l'amour. Hein. Toutes ces belles histoires, pour fascinantes qu'elles paraissent, il suffit d'un tumulte, d'une entrée d'un homme sous, pour nous y ramener comme au réel. Vous trouvez ça à la page 162. Hein. Toutes ces belles histoires, pour fascinantes qu'elles paraissent, il suffit d'un tumulte, de l'entrée d'un homme sous, pour nous y ramener comme au réel. Avec l'entrée d'Alcibiade, donc, à la fin du banquet, on sort de l'ultramonde, on sort du monde des idées, et on entre, dit-il, dans le monde tout court. Où nous savons après tout comment l'amour se vit. Pour aimer, nous dit Lacan, il faut être trois. Alors, là encore, c'est une formule qu'il faudrait largement commenter. Je l'ai évoqué tout à l'heure un tout petit peu, mais enfin, vous commencez à avoir un aperçu de ce que ça ne se passe jamais à deux. Qu'au fond, il y a toujours un au-delà, qui est le troisième terme, et qui est justement ce qu'il s'agit de faciliter dans la position même de l'analyste et dans ce que soutient l'analyste par son désir. Donc le banquet, c'est cette beuverie où se retrouvent des convives qui ont choisi pour thème nocturne de débat l'amour, ça je dis pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, et tour à tour, ils échangent leur point de vue sur l'amour. Et donc je m'arrête à une petite séquence hein, que je réduis aux protagonistes qui sont donc au nombre de trois, enfin il y a beaucoup plus de protagonistes dans le banquet, mais la scène que Philippe a déjà évoquée, ils sont au nombre de trois. On a donc cette relation Socrate-Alcibiade. Alcibiade qui est l'amoureux transi qui dit « Je suis sûr, je sais que Socrate m'aime, etc. » Simplement, il ne me le dit pas. Enfin, il ne m'en donne pas les signes. Et puis, il y a un troisième larron qui est Agathon. Hein, qui est, si je me souviens, le poète tragique, celui qui vient d'être couronné pour une pièce tragique qu'il a... qui a été donné la veille, et il y a tout un développement aussi, on peut pas parler de tout, hein, mais il y a tout un développement de Lacan sur au fond la position dans le banquet du poète tragique, donc Agathon, et de l'autre dans ça m'échappe du comédien, enfin de celui qui est du côté de la comédie, et au fond de dire que pour parler de l'amour, au fond Agathon en est réduit à une sorte de comédie justement. Donc ils sont trois, alors qu'en apparence dans la relation transférentielle on est deux. Alors pourquoi donc ce fameux troisième terme ? Et c'est ce qui fait l'enjeu de cette troisième métaphore de l'amour. Parce que là, il n'y a que deux termes. Alcibiade sait que Socrate en pince pour lui. Vous trouvez ça à la page 187 du séminaire. Je lis. Alcibiade savait l'attention que depuis longtemps Socrate portait à son aura, hein, traduisait, dit Lacan, à son sex-appeal, à son pouvoir de séduction. Mais cette intuition d'Alcibiade, que l'autre Socrate est séduit par lui, ça ne lui suffit pas. Il aime Socrate, il se doute que Socrate en retour l'aime. Bref, il se trouve au bord du miracle de l'amour. Il suffirait que Socrate, qui est là en position, croit Alcibiade d'amant, au fond, en position d'aimer, devienne à son tour amant, qui lui donne le signe qu'il est aussi amant. Il attend ça. L'enjeu, enfin, au fond, Alcibiade veut recevoir de Socrate le signe de cet amour. Il ne se satisfait pas de son intuition, il veut que Socrate le lui dise. Et l'enjeu de cette relation transférentielle où Alcibiade attend de Socrate le signe de son amour, eh bien tout l'enjeu, et c'est là-dessus que Lacan va mettre le doigt, c'est que Socrate s'y refuse. Il s'y refuse de toutes les façons, de façon un peu parfois confuse, mais enfin il s'y refuse. Il refuse que se réalise la métaphore de l'amour, la merveille de l'amour, qui serait que d'objet aimé, Socrate devienne à son tour amant. Que Socrate, de sa position de celui qui a, de sa position de petit a, consente à passer à la position de S barré, dans cette métaphore lacanienne de l'amour. Et au fond, il retient ce mouvement. Et toute l'énigme sur laquelle nous nous penchons, tout le paradoxe de la position de Socrate, c'est que plus Socrate se refuse à être un S barré, plus il se refuse à être un sujet désirant, plus il laisse penser à l'autre qu'il n'est, si je puis dire, que petit a, c'est-à-dire en position d'aimer, qu'il a tout ce qu'il faut, en quelque sorte, et que l'autre n'a plus qu'à l'aimer, eh bien, plus il se refuse à passer dans l'autre position de sujet désirant, d'un sujet qui manquerait, eh bien, plus il devient désirable. Plus le désir d'Alcibiade est tendu vers lui. Et au fond, ça, c'est pas le miracle de l'amour, ça, c'est le miracle du transfert, si je puis dire. Et nous avons là une troisième métaphore qui est précisément l'inverse de la précédente. La précédente réalisait le passage de A vers S barré, de la position d'objet d'amour qui a tout ce qu'il faut de désirable à la position d'amant qui manque, alors qu'ici, ce qui est réalisé, c'est la mise en exergue, la mise en évidence de petit a. Hein, c'est que plus il se refuse à être l'amant, Socrate, eh bien plus l'autre l'aime. Socrate reste alors dans la position de celui qui a, mais plus encore, plus il s'y maintient, plus il se refuse à la merveille de l'amour, eh bien plus il apparaît comme ne manquant de rien, plus consistant. Il apparaît comme contenant quelque chose de précieux. Hein, et Lacan relève dans le séminaire à plusieurs reprises la figure de Silène cette figure de Silène qui contient des agalmatas. Et il va faire un sort à ce terme d'agalma, qu'il va le chercher dans le texte et dans d'autres textes encore, pour au fond dire enfin une des faces, je dirais, de son fameux objet petit a. Hein. C'est avec ce terme d'agalma, c'est-à-dire qu'il y a là des merveilles qui sont cachées dans la figure de Silène. Et ainsi, tout indique que parce qu'il se refuse, Socrate, à entrer dans le jeu de l'amour, eh bien, il doit en savoir un bout. Il doit en savoir un bout sur l'amour. C'est-à-dire qu'au fond, Lacan ne le dit pas là, parce qu'il n'a pas encore l'expression dans la main, mais il doit en savoir un bout. C'est-à-dire qu'au fond, plus Socrate devient sujet supposé savoir quelque chose sur l'amour. C'est donc parce que Socrate sait qu'il n'aime pas. Page 188, vous avez cette formule, et au fond, avec tout ce qui vient de se dire, on comprend mieux cette formule. C'est parce que Socrate sait qu'il n'aime pas. Et vous voyez ainsi s'éclairer la formule que le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Mais vous voyez aussi que la condition de faire exister ce savoir, qui est le savoir inconscient, dans la relation transférentielle, que cette condition est de ne pas répondre à l'amour par l'amour, mais d'y répondre par un refus de donner l'amour qu'attend Alcibiade. Dans une interview ultérieure, je pense à un journaliste italien, je pense à ce trouve dans le texte Le Triomphe de la Religion, mais je pense que c'était au moment où Lacan était en Italie, il y a cette expression de Lacan où il dit « il s'agit de taire l'amour ». Ne pas répondre à l'amour, ce n'est pas se mettre dans la position esbarrée au sens d'un sujet qui n'a pas, mais ne pas y répondre de façon décidée, radicale, en s'y refusant absolument, c'est se mettre dans la position d'un sujet manquant qui sait qu'il n'a pas l'objet que l'autre attend. Cela fait de vous, de l'analyste, un sujet pur désirant. Et dans cette proposition de la passe qu'on évoquait en introduction de 64, Lacan reprend cela ainsi, vous trouvez ça page 251 des autres écrits, donc du deuxième volume. Donc Miller a appelé les autres écrits, page 251. Il y a cette phrase où dans la proposition de la passe, Lacan écrit « Socrate sait qu'il ne détient que la signification qu'il engendre à retenir ce rien ». On comprend mieux cette phrase qui sinon est quand même un peu... Hein, Socrate sait qu'il ne détient que la signification qu'il engendre à retenir ce rien. C'est parce qu'il retient ce rien du petit tas que l'autre lui suppose avoir, c'est pour ça qu'il dit ce rien, parce que ça n'est qu'une supposition qu'il l'est. Hein. C'est parce qu'il la retient qu'une signification s'engendre. Qu'il engendre ainsi une signification. Une autre façon de le dire, c'est que Socrate, au fond, essaie par ce refus d'échapper à toute représentation par le signifiant. C'est-à-dire que ça reste une énigme pour Alcibiade. Et dans le banquet, quand on le relit avec cette lecture de Lacan, au fond, on le saisit dans les termes mêmes d'Alcibiade s'adressant à Socrate. C'est vraiment, au fond, il échappe à toute représentation par le signifiant, il est ininterprétable en quelque sorte. Et donc il pousse à l'interprétation. Je veux dire par là que, au fond, la fameuse interprétation de l'analyste, ça n'est pas de grandes phrases, ça n'est pas de grands discours, ça n'est pas de grandes explications. L'interprétation analytique, essentiellement, elle est là, dans ce retenir ce rien, c'est-à-dire de ne pas répondre de la bonne façon, au bon moment, si on radicalise ça, de ne pas répondre, ça pousse à l'interprétation. Mais alors l'interprétation, elle se produit du côté de l'analysant qui, alors, au fond, cherche un pas plus loin, pousse un cran plus loin, au fond, son élaboration. Et que l'interprétation analytique, elle est, de façon radicale, elle est là. Je vais m'arrêter là, j'avais encore deux, trois choses, mais je pense que c'est bien.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vais revenir un petit peu. Des questions qui me sont survenues en t'écoutant. Au fond, tu pointais la question de la fin de l'analyse et au fond, comment on manipule ce transfert et qu'est-ce qui fait. On peut dire que l'analyse se termine ou non. Et je me disais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un grand point de différenciation entre, on pourrait dire, une orientation freudienne et une orientation lacanienne dans ce que, par exemple, des freudiens appelleraient une analyse didactique par rapport à une analyse normale. Or, du côté lacanien, justement, on ne parle pas d'analyse didactique. Et donc ça suppose qu'il y a un aspect commun à cette liquidation du transfert. Enfin, c'est une question qui serait différente à partir du moment où on se situe dans une démarche où on suppose qu'il y a deux types différents d'analyses possibles, une qui serait didactique et une qui serait, j'ai envie de dire, pour monsieur et madame tout le monde, enfin quelqu'un qui n'aurait pas une visée de passer le pas du côté d'un devenir analyste. J'étais aussi sensible, mais ça c'est un éclairage parallèle finalement, au fait que dans cette question de savoir si le transfert était une répétition et où tu pointais qu'au fond une répétition ce n'est jamais quelque chose d'égal. Ça me faisait penser, bon, je sors un peu du champ de la psychanalyse, mais c'est une façon de faire des parallèles, et d'autre part par un champ qui a été justement influencé par Jacques Lacan, toute la pratique de l'analyse du discours qui a, à la française, comme on dit, qui a vu le jour dans les années 60, influencée par Tournier qui allait au séminaire de Lacan, disait qu'au fond, la répétition dans les discours et dans les paroles d'un sujet aussi n'était jamais une stricte répétition, ne fût-ce que parce qu'il y avait des placements dans le temps et l'espace. Et au fond, c'est ce qu'on retrouve ici, je trouvais, d'une certaine façon. Euh,
Oui, alors je vais peut-être juste clôturer sur un troisième point. Ça vient comme ça. C'est que dans cette remarque ironique de Jacques-Alain Miller du côté « Dieu calcule pendant que les hommes se bécotent », au fond, on voit bien... je me suis dit, il est moins virulent d'une façon directe, par exemple, par rapport au discours universitaire, qui serait un discours du savoir, un discours du calcul, un discours de la maîtrise. Il ne vise pas spécialement ce discours-là, mais enfin, on peut l'entendre. On peut entendre ça sous ces mots, si je peux dire. Mais en même temps, ça me faisait penser à d'autres domaines qui ont été explorés il n'y a pas longtemps pour moi, de dire au fond cette société dans laquelle on est, qui est une société du calcul, du moindre risque, on voit bien que il ne s'agit pas simplement de calculer des signifiants, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu de ce côté-là. Voilà, je vais en rester là maintenant. Okay. Et puis, est-ce que... Peut-être tu préfères que je demande aux personnes si elles souhaitent poser une question, et puis après ? Ok, eh ben allez-y, si vous avez des questions.
Je peux déjà dire deux, trois mots sur les trois questions que Anne pose. Ça vous laisse le temps d'en préparer d'autres. Rapidement, parce que c'est évidemment... Sur la question de l'analyse didactique, j'ai envie de dire, pour faire des pirouettes aussi, donc il n'y a pas d'analyse didactique dans la psychanalyse lacanienne, où toute analyse est didactique, au sens où on y apprend toujours quelque chose dans une analyse. Deuxième point... Lacan avait l'habitude de dire qu'il éconduisait, si ça se dit, qu'il refusait de prendre en analyse des gens qui venaient se présenter à lui en disant « je voudrais mieux me connaître ». C'est-à-dire, pour commencer une analyse, la condition première, c'est d'avoir une petite souffrance quelque part, d'avoir quelque chose qui vous y pousse, d'avoir ce qu'on appelle un symptôme, et pas juste une question sur le savoir. Une question sur le savoir peut être une souffrance, mais il faut pouvoir mesurer, si c'est bien de cet ordre-là, que cette question sur le savoir pose ou pas. Alors ça me permet de passer à la troisième question sur l'université, le calcul, etc. Je pense que, et Jacques-Alain Miller et Lacan, au fond, ne sont pas virulents sur la dimension du calcul et notamment des mathématiques. Ils ont au contraire un attrait, et Lacan a beaucoup travaillé ça, et Miller, c'est son joujou d'enfant. Les combinatoires, c'est son joujou d'enfant. Il explique qu'il est très excité par les mathématiques. On voit bien que les mathématiques, c'est pas uniquement quelque chose de... Alors, le discours universitaire, c'est autre chose. Je peux pas le développer maintenant, mais... ça, c'est juste pour resituer la question du calcul comme ayant tout à fait ses fondements. Et la dimension, donc la lettre volée, me semble-t-il, ne dit rien d'autre que, au fond, le signifiant rentre dans un jeu de combinatoire. Et vous lisez la lettre volée d'Edgar Poe, qui, si je ne m'abuse, n'est jamais ouverte, n'est jamais décachetée. Et néanmoins, il y a une signification qui circule. Et c'est ça l'idée. C'est alors Lacan fait tout un jeu de petites lettres pour montrer que ça circule comme ça, comme ça, comme ça. Et au fond, il en fait une sorte de jeu mathématique. Et il y a quelque chose, c'est pour ça que je reprenais cette expression exhaustion purement dialectique de l'être, qui est une expression philosophique, disons, mais où, au fond, on pourrait penser à penser le sujet dans son rapport intime au signifiant, qu'il se réduirait finalement à une simple combinatoire, et que l'analyse, ça ne serait qu'une simple combinatoire de signifiants. J'espère qu'il rit. Je disais, j'espère qu'il rit. Parce que j'hésite à entendre ce que j'entends, s'il rit ou s'il pleure. Mais s'il rit, c'est rien. Enfin, s'il pleure non plus, d'ailleurs, mais je ne peux pas le consoler tout de suite. Bon. Non, c'est rien. Avec ça, Vous, avec ça, vous avez des questions maintenant, je suppose. Sinon, il y a encore transfert répétition. C'est encore mieux, comme ça, on peut l'apprendre au vol. Et... Donc la question, c'est, si j'entends bien, est-ce que la séduction de l'hystérie constitue un mode de transfert particulier ? C'est ça. Est-ce que ça constitue une modalité spécifique du transfert ? Est-ce que c'est un transfert comme un autre ? On ne peut pas douter que l'hystérique, qu'elle soit dans un rapport de séduction qui se présente sous toutes sortes de formes, d'ailleurs pas toujours agréable, soit, que ce soit agréable ou pas, pris dans une énamoration, pris dans un lien amoureux, même si elle conteste, même si elle... Bon, que ce soit tentative de séduction d'une façon ou d'une autre, il y a in fine quelque chose en dessous qui est... que si par exemple, quand vous disiez, elle titille le maître ou elle cherche à le déstabiliser ou à lui dire que là, ça, cette partie-là de son exposé, il n'a pas bien fait, etc., eh bien, en dessous, c'est quand même pour installer un lien d'amour qui est une façon de dire ce qui te manque, peut-être, au fond, je serai cela, ton bien le plus précieux. Hein, donc, de cette façon-là, je pense, enfin, pour répondre très clairement à la question de est-ce que c'est un transfert comme un autre, il me semble que c'est essentiellement à partir de là que Freud a découvert le transfert. C'est vraiment ça, les fondements, la base, etc. Maintenant, votre question en pose une au-delà, c'est de savoir s'il y a, au fond, un transfert ou des transferts. Hein, est-ce que... je pense qu'il est plus raisonnable de postuler qu'il y a une modalité, enfin qu'il y a un transfert, alors avec des variations, avec selon les structures, etc. Là, on pourrait commencer à discuter si on a affaire à un sujet qui est franchement installé dans la névrose ou un sujet qui est franchement installé dans la psychose. Est-ce que je pense qu'on a intérêt à prendre au fond une option univoque de ce point de vue-là. Il y a de l'amour en jeu, que ce soit et ça, c'est transstructural. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas à quelle heure on doit arrêter. On a le temps. Philippe Elbois ? C'est très, très heureux de... C'est tout à fait heureux de ramener cette formule qui en plus est dans le texte, parce que c'est une formule de Lacan qu'on répète souvent. Hein. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas, mais on le trouve dans le texte du séminaire. Voilà. Et alors, enfin, je pourrais continuer à commenter, mais je voudrais plutôt prendre les questions s'il y en a. Hein. C'est pas, c'est parce que s'il n'y en a pas, c'est que soit c'était absolument limpide, soit c'était tout à fait obscur et béton, et donc... Oui. Oui, Voyage au pays des psychoses voilà, d'Augustin Ménard qui est... Oui, c'est beaucoup de questions, des questions difficiles, mais tout à fait pertinentes. En effet, qu'en est-il ? Alors, il faudrait qu'on développe un peu plus. Il y a tout un volume qui s'appelle L'amour dans les psychoses, qui développe cette question, évidemment, du transfert dans les psychoses. Alors, la première formule que j'utiliserais, c'est de dire que le transfert dans la psychose est toujours érotomaniaque. Et si on prend ça comme appui, il me semble qu'on a un repère sûr. Si on ne lâche pas là-dessus. Alors évidemment, ça se donne sous des formes extrêmement variées. Hein, mais érotomaniaque veut dire beaucoup de choses, veut dire que, au fond, quand le sujet s'adresse à vous, il y a une certitude qui s'installe, qu'il vous aime ou qu'il vous haïsse. D'ailleurs, ça revient pas tout à fait au même, parce que ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences. Mais enfin, il peut être dans un rapport très rétif à l'analyste. Néanmoins, cette passion-là peut soutenir un lien transférentiel. Érotomaniaque, ça veut dire aussi que ça peut se retourner et que, au fond, la grande difficulté dans la pratique de la psychose, enfin, c'est difficile avec des modulations selon les cas, c'est quand le transfert se retourne, essentiellement quand il passe de l'amour à la haine. Bon, c'est des virages qui sont parfois difficiles à négocier, si je puis dire. Évidemment, on ne va pas utiliser le moteur du transfert de la même façon. Mais moi, je postulerais plutôt, enfin comme ça, en réponse spontanée, qu'il faut prendre ça au même titre que, enfin au même titre, qu'il faut également postuler qu'il y a un transfert dans la psychose, bien entendu, et qu'il s'agit d'amour, bien entendu, et que cet amour n'est pas moins authentique, bien entendu. Enfin là vraiment, je martèle parce que c'est évident que c'est comme ça et que ça compte. Maintenant, par rapport à la chose très subtile qu'a dit Philippe Elbois sur le retenir, le rien, et sur, au fond, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et bon, là, dans la position de l'analyste qui a affaire à un sujet psychotique, au fond, on voit bien qu'il doit donner un peu quelque chose, qu'il doit donner un peu ce qu'il a, un peu plus que de retenir le rien quand vous avez affaire à un sujet franchement névrosé, je dirais. Parce que ça a des variations, mais il s'agit de donner un peu de, comment dire ça, pour dire ça en termes, enfin il faut parler un petit peu plus, pour dire bêtement, il faut parler un petit peu plus, pas trop, mais comment, plus fort. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mystère, de grand mystère. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est. Il faut que les choses soient quand même, enfin qu'on soit pas trop dans l'ambiguïté du dire. Hein, dès qu'on parle, on est dans une forme de enfin, c'est toujours interprétable. Hein. Ici, dans la psychose, ce dont il va s'agir essentiellement comme travail, c'est au fond ce qui vous arrive là. Eh bien, il faut arriver à le situer à la bonne place correctement et que ça ne reste pas trop ininterprétable. Parce que c'est quand c'est ininterprétable que c'est inquiétant. Quelqu'un me rapportait aujourd'hui le cas d'une jeune fille psychotique qui disait « Le pire, c'est quand ce que mes voix me disent, je ne le comprends pas. Que c'est des choses articulées de telle façon que je ne le comprends pas. Ça me rend complètement folle. » Je trouvais ça très intéressant comme remarque, parce que ça indique bien que ce qui la persécute, c'est pas la signification, c'est l'efflorescence possible de signification. C'est qu'il se dit des choses qu'elle n'arrive pas à attraper. Et donc là, au fond, il s'agit plus de maîtriser le sens, enfin, ou de donner une signification stable. Bon, celui qui a beaucoup travaillé cette question, c'est Éric Laurent, en parlant de traduction permanente de la langue, hein, parce qu'à la fois il s'agit de stabiliser les significations et en même temps il s'agit de ne pas s'en tenir à la stabilité des significations parce que c'est pas stable justement et que quand elle est trop fixée, c'est ça qui pousse au passage à l'acte et donc il faut réinterpréter en même temps, mais à un rythme au fond suffisant pour éviter que ça se focalise trop, mais pour éviter aussi que ça se dissémine trop. Enfin, voilà. N'hésitez pas. J'avais également apporté un cas, mais je ne vais pas commencer à vous le développer. Enfin, je vais vous en dire quand même deux mots. C'est que j'avais apporté un cas avec une petite séquence qui me semblait paradigmatique de la façon dont se représente le transfert dans la cure. C'est l'épisode qui remonte à il y a quelques années, d'une analysante qui entre et que je reçois en vis-à-vis. Ce qui d'ailleurs ne veut rien dire quant à la structure, je vous assure. Il s'agit d'une patiente névrosée. Et donc je la reçois depuis longues années en vis-à-vis. Et elle s'assied, elle ne dit rien, elle est mutique, ce qui d'ailleurs est ce qui est habituel chez elle. Et puis elle reste fixée sur une place vide qui est la place de la poubelle. Et elle me dit « Votre poubelle a disparu ». Et elle pouvait rien dire, sinon partir de là, partir de « votre poubelle a disparu », pour ensuite dire « eh bien voilà, mes mots ne pourront plus atterrir dans la poubelle et donc ils vont vous encombrer, vous contaminer, etc. » C'est-à-dire, évidemment, bon, donc j'avais développé le cas avec tout ce que dit sa mère sur cette question de la poubelle, puisqu'elle pouvait dire, par exemple, c'est une expression commune qu'on entend, pas uniquement chez cette dame-là, hein, au fond, pour ma mère, j'étais une oreille poubelle. Et au fond, toute sa difficulté à venir parler dans l'analyse, c'était... Bon, pourquoi je dis que c'est une séquence spécifique du transfert, c'est que ça n'est pas... Je ne sais plus si c'est dans ce séminaire-ci ou ailleurs, mais enfin, il y a un développement de Lacan sur ce moment du transfert où Freud le note déjà, où l'analysant se tait. Et Freud dit, il se tait, cela signifie qu'il pense à vous. Et alors Lacan fait tout un développement de ça pour dire que ça signifie qu'il pense à vous, donc à l'analyste, non pas, alors bien sûr on peut mettre ça du côté de l'énamoration, etc., mais Lacan accentue, radicalise ces moments-là qui sont quand même fréquents dans une cure et qui, comment dirais-je, sont des moments où l'analyste apparaît comme un recours, un point d'accroche. C'est-à-dire là où rien ne pouvait se dire, non pas parce que le mutisme n'est pas seulement qu'on retient quelque chose qu'on n'ose pas dire parce que c'est un peu honteux, c'est des choses, je pense, plus compliquées encore qui se produisent, où aucune signification n'arrive à s'articuler de la bonne façon, où, au fond, c'est le moment de la cure, où on approche, hein, parce que parfois on est un peu plus proche, parfois on s'éloigne, de la question de l'objet. Et tout le développement de Lacan à propos du banquet et pourquoi il appelle celui qui a petit a, c'est parce que petit à petit il va formaliser, mais c'est quoi cet avoir particulier qui est un manque, hein, puisque la définition de l'objet petit a que Lacan va formaliser, c'est de dire au fond ce a qu'on retient, qui est retenu, au fond ça se définit comme un manque. Et donc cet exemple là de la poubelle montrait bien au fond que elle était dans un moment de son analyse, enfin, avec prise entre être l'oreille poubelle de sa mère, dont elle était relativement au fond allégée à ce moment-là de l'analyse, et ce par quoi sa mère était elle-même contaminée, qui était la question du génocide juif, de la Shoah. Elle était prise là-dedans, et au fond la poubelle, c'était en même temps, enfin, ça représentait énormément de choses indicibles, innommables. Et au fond, le transfert, c'est ce moment où le sujet se raccroche à l'autre, alors à ses objets, à son rideau, à son machin, bon, Freud donne des tas de descriptions de ça, au moment où il se raccroche à l'autre pour essayer de dire un petit peu quelque chose, mais ce dire ne peut se formuler que dans ce soutien à l'objet de l'autre, que ce soit sa poubelle, que ce soit, etc. Et que le transfert, c'est là, et l'enjeu du transfert, c'est celui-là. Voilà, c'est ce que je... développer de manière un peu plus longue là dans le cas que j'avais amené. On peut peut-être s'en tenir là.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve dans 3 semaines, je pense. À très bientôt.